Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir d'accueillir le président André Lévy-Lang. Président, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de faire paraître en co-édition chez Erol et aux éditions des Échos « Il faut maîtriser la finance ». Qu'en pensent les économistes? Point d'interrogation. Et cet ouvrage, ce précis en quelque sorte, s'inscrit dans une nouvelle édition dont c'est la quatrième parution que vous avez intitulée « On entend dire que ».
Voilà, exactement, qui traite d'un certain nombre de sujets d'actualité.
C'est ça. Donc, j'ai noté d'ailleurs que les principaux, le pouvoir d'achat baisse, l'immigration coûte cher à la France, il faut une révolution fiscale. Donc ce sont des réponses très pragmatiques à des sujets que se posent l'ensemble des Français. Quoi,
hein. Absolument, d'actualité surtout.
D'actualité. Bon, rapidement, je vous présente, je pense que nos auditeurs se rappellent déjà que vous avez été le lauréat du prix Turgot de 2006 pour votre ouvrage paru chez Odile Jacob, « L'argent, la finance déjà et le risque ». Et vous êtes par ailleurs donc le past président, on s'en souvient, du groupe Paribas, professeur associé émérite à l'Université de Paris-Dauphine, et vous présidez le conseil de surveillance du quotidien des Échos, l'Institut Louis Bachelier, ainsi que l'Institut français des relations internationales et de la Fondation du risque. Ce qui veut dire que vous êtes légitime lorsque vous parlez de finance. Alors, dans cette période électorale, certains ont trouvé que la finance pourrait être un adversaire sans visage. Et vous, vous préférez, semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'ai retenu dans votre démonstration, l'image de Janus, pour vous, et à deux visages, la bonne finance et puis celle qu'il faut maîtriser.
Exactement, exactement. D'autant plus que la finance, pour deux raisons aujourd'hui, d'une part, elle a certainement contribué à la crise que nous vivons, elle n'en est pas la seule responsable. L'endettement des États, etc., était aussi une raison fondamentale. Enfin bref, elle a joué un rôle important. Et deuxièmement, aujourd'hui, avec la crise de l'euro et la pression des marchés, entre guillemets, on peut avoir l'impression que ce sont les marchés qui sont en fait un peu les coupables, enfin que c'est à cause des marchés que nous devons, etc., la dictature des marchés. Donc je pensais qu'il était important de remettre un peu les choses en place en parlant d'une part de ce que j'appelle la bonne finance.
Alors c'est quoi la bonne finance?
La bonne finance, c'est la finance qui joue son rôle. Le rôle de la finance, c'est d'optimiser, enfin d'être là, au service de l'économie d'abord, et au service de l'économie en optimisant, pour employer un terme un peu savant, en optimisant l'allocation des ressources financières d'une part et aussi la gestion des risques qu'on oublie parfois. C'est-à-dire que toute économie, tout progrès suppose risque et suppose investissement. Or, l'investissement et le risque, il faut ajuster l'offre et la demande. Il y a une offre d'investissement qui est l'épargne, il y a une offre de prise de risque qui sont des gens qui sont prêts à garantir des risques et le rôle de la finance, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accord entre les deux. Je prends des exemples concrets pour montrer que c'est utile. Je prends l'exemple, je crois, d'un boulanger, parce qu'une chose que j'ai vécue quand j'étais en charge de ces activités, notamment à mon début dans la banque, un boulanger qui s'installe et qui n'a pas beaucoup d'argent et qui cherche quelqu'un pour financer son installation, mettons typiquement quelques dizaines de milliers d'euros. Mais il y a des banques spécialisées qui connaissent le métier de la boulangerie, qui vont prendre le risque. Et c'est un risque qui est maîtrisé, donc elles savent qu'elles peuvent prendre ce risque. Donc, j'ai pris un autre exemple, le capital des entreprises. Notamment des entreprises moyennes qui se développent, qui ont besoin de faire appel au marché. Donc, c'est ça la première idée. Il y a une bonne finance quand elle joue son rôle. Voilà, il faut la sauvegarder.
Il faut la sauvegarder, notamment dans son métier, on va dire, central, qui est celui de la transformation, c'est-à-dire de transformer des dépôts en prêts pour ceux qui en ont besoin.
Oui, mais aussi, c'est ça qu'on oublie aujourd'hui, mais aussi d'être à l'intermédiaire dans les marchés, pour les entreprises en particulier, pas seulement les très grandes.
Tout à fait.
Parce que le financement aujourd'hui, en France aujourd'hui, c'est en gros trois quarts, un quart. Trois quarts les banques, un quart les marchés. Dans le reste du monde, notamment aux États-Unis, c'est l'inverse.
C'est trois quarts les marchés et
un quart les banques.
D'accord. Donc aujourd'hui encore, la banque, on va dire, sur le marché français, a tendance à lisser les fluctuations du fait de son poids dans ce financement.
Quand elle joue son rôle, peut en effet assurer une stabilité.
Une certaine
du financement de l'économie.
Alors, vous le dites seulement, il arrive que cette finance, et on l'a vu récemment, puisse déraper et devenir nuisible. La crise financière actuelle en atteste cruellement. Or, les innovations et les excès qui ont conduit à la catastrophe n'étaient souvent que le prolongement excessif et perverti d'outils a priori utiles.
Voilà, exactement. J'ai pris comme exemple la titrisation, c'est-à-dire le fait qu'une banque vende à des investisseurs un ensemble de crédits. Bon, crédit aux particuliers, crédit immobilier, crédit aux entreprises. C'est une technique qui a maintenant une trentaine d'années, qui est utile parce qu'elle permet aux banques, dont le capital est une denrée rare, si vous voulez, de libérer une partie de leurs fonds propres en cédant des risques, si vous voulez, à des investisseurs, de manière à pouvoir faire plus de crédits et d'autres crédits. Donc, il y a une sorte de partage des risques qui est utile. Ça a été dévoyé. Ça a été dévoyé par notamment des banques américaines qui ont vendu des crédits de mauvaise qualité à des investisseurs, avec la complicité implicite d'agents de notation qui... Enfin bref.
Avec une pollution.
Une pollution du système, c'était les fameux subprimes.
C'est ça, tout à fait.
Donc, un cas d'excès, si vous voulez. L'autre cas d'excès que je cite, ce sont les dérivés de crédit.
C'est important, peut-être un mot là-dessus, je pense.
Ça mérite un mot, parce que c'est un...
Les fameux CDS.
Oui, les fameux crédits default swap, CDS. Je le définis comme pouvant être abusif. Je prends l'exemple de l'assurance. C'est une forme d'assurance. Imaginez que vous puissiez prendre un contrat d'assurance sur un incendie chez vos voisins. Quand on dit si la maison de vos voisins brûle, vous êtes indemnisé. Bon, c'est manifestement abusif.
Tout à fait, c'est abusif.
Or, les CDS sont très utiles quand il s'agit, là encore, pour une banque, par exemple, de partager ses crédits risques, de les réduire pour faire plus de crédits. Ça devient abusif quand il se crée une masse énorme de ce type d'opération, obscure, opaque.
Et justement, ce qui frappe, c'est que, justement, on ne sait plus très bien où se situe le risque. Et deuxième point qui frappe, c'est que ce sont les volumes, vous faites un développement là-dessus, les volumes himalayens, les flux et des encours. Donc, on a l'impression qu'en fait, ça a échappé à un moment donné à tout contrôle.
Alors, l'impression que l'on a aujourd'hui, c'est que rien n'a été fait. Alors, en fait, beaucoup a été fait. Et je crois qu'on peut peut-être en dire deux mots.
Bien sûr.
Le G20, si vous voulez, qui s'est réuni au moment de la crise et qui a joué un rôle important au départ, en tous les cas, pour éviter que la crise financière ne devienne une crise dramatique mondiale, le G20 a notamment créé une instance qui s'appelle le Conseil pour la stabilité financière, qui regroupe tous les régulateurs financiers du monde, mais aussi le Fonds monétaire international, enfin, le FMI, etc., et qui a fait des recommandations. Ce ne sont pas des lois, mais des recommandations. Et ces recommandations comportent, par exemple, le fait qu'il faut que ces fameux dérivés de crédit passent dans des marchés organisés pour qu'il y ait une transparence, qu'on puisse savoir où sont les risques. D'autres recommandations, c'est qu'on analyse le cas des très grosses banques dont le risque devient systémique, comme on dit, c'est-à-dire dont la faillite aurait des conséquences. Donc, ces recommandations existent. Elles sont appliquées par les organes de réglementation, de régulation. À l'échelle européenne, il y a depuis 2 ans un organe européen pour les banques, qui est l'Autorité bancaire européenne. Aux États-Unis, une loi a été passée très complète qui s'appelle le Dodd-Frank Act en 2010. Donc, des mesures ont été prises. Ces mesures vont certainement avoir un effet bénéfique pour la suite des choses, je pense. Mais il faut qu'elles soient mises en œuvre.
Oui. Et puis, le contrôle était très, très national. C'est un élément de souveraineté pendant très, très longtemps. Et deuxième aspect, et je vous en parlais dans votre parution, c'est tout le côté shadow banking, qui lui échappe encore, enfin pour combien de temps on ne sait pas très bien, mais certainement pour encore un temps, à cette régulation concertée.
Il y aura toujours des opérations en dehors des banques par nature. Exemple, les gérants de fonds, les hedge funds. Bon. Mais ces opérateurs hors banque, ils ont besoin de passer à un moment ou l'autre par les banques, pour le crédit notamment. Donc il y a moyen d'y accéder.
D'accord.
Il y a moyen d'y accéder, oui, à travers les banques. Donc la question centrale, c'est que ce sont les banques qui jouent un rôle central. Aucun pays ne peut accepter le risque d'une faillite bancaire, parce que c'est des conséquences dramatiques, on le voit aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une régulation forte et surtout des régulateurs, des gendarmes, si j'ose dire, de très grande qualité.
Ce que vous dites, pour faire une bonne police, il faut de bons policiers.
Voilà. Il faut, et je crois que c'est spécialement vrai pour les banques, il faut que les gens qui sont à l'intérieur des banques s'occupent du contrôle, non seulement bien considérés, bien rémunérés, mais axés. Nous avions une règle simple chez Paribas qui a été conservée par BNP Paribas et dont je crois qu'il explique en partie la qualité
la maîtrise des risques.
La maîtrise des risques qui a été bonne et qui est encore bonne, c'est que s'il y a un désaccord entre un contrôleur des risques et un opérateur, le principe, c'est que le contrôleur des risques a raison.
Effectivement, c'est une mesure de bon père de famille et de bon sens.
Si JP Morgan l'avait appliqué, je pense qu'il nous aurait économisé quelques milliards de dollars.
Oui, absolument. Alors, vous passez en revue, alors déjà un point sur lequel vous insistez, et j'aimerais bien avoir un développement là-dessus, c'est sur le rôle, on va dire, pervers de certaines dispositions qui ont été prises, ou de principes, notamment la juste valeur.
Oui.
Alors, vous parlez de la comptabilité juste avant la juste valeur. C'est une très belle image. Donc, vous pouvez nous rappeler très, très brièvement ce que c'est que cette notion de juste valeur et en quoi c'est une difficulté majeure pour le secteur bancaire qui est toujours en quête de confiance par essence.
Juste valeur est une traduction française de fair value, valeur équitable. Bon. Ce sont les organismes qui réglementent les règles comptables, si vous voulez. Bon, il y en a deux, États-Unis et reste du monde, qui se sont à peu près mis d'accord, pas complètement, sur le fait qu'il fallait que les comptes des entreprises reflètent non pas toujours la valeur historique des actifs, mais leur valeur de marché. C'est une idée générale qui est relativement légitime. D'un autre côté, elle suppose que l'on regarde toute entreprise comme en liquidation, théorique.
Bien sûr, oui, c'est bon. Valeur liquidative.
C'est valeur liquidative, la valeur de marché. Alors, ça a des conséquences très négatives, dramatiques dans le cas des banques et des entreprises financières. Pourquoi ? Les banques, par nature, détiennent des actifs de long terme. Les crédits de long terme, mais aussi des portefeuilles obligataires, éventuellement de long terme. Ces actifs, elles n'ont pas le besoin de les vendre tout de suite. Si on les met à la valeur de marché, en supposant qu'il y a un marché, ça veut dire que quand les marchés sont bons, elles vont faire apparaître potentiellement une valorisation, ce qu'entre parenthèses, elles n'ont pas le droit de faire tout de suite. Mais surtout, quand le marché est mauvais, pour une raison conjoncturelle, elles vont faire apparaître des pertes. Des pertes qui sont en partie fictives.
Tout à fait.
Et donc, ça a un effet, ce qu'on appelle procyclique, c'est-à-dire ça accentue les effets du cycle. On n'a pas réussi aujourd'hui, à ce stade, à faire évoluer les règles en la matière. On les a un peu atténuées, si vous voulez.
Oui, mais en fait, la pensée américaine dominante. Ça veut dire,
Oui, mais disons que les organismes non américains, notamment l'ISB qui règle les fameuses règles d'IFRS, bon, bref, c'est la technique, mais aussi ont adopté ce principe.
Mais c'est ça.
Les grandes lignes. Donc, alors, il y a eu des atténuations, il y a des choses qui font que ce n'est pas aussi dramatique que ça pourrait l'être, mais c'est ce type même d'opération, de décision dont on ne voit pas les portées, la portée générale.
Alors, vous passez donc en revue les pistes sur lesquelles on peut approfondir cette régulation. Bien entendu, vous parlez de la coordination internationale, d'une gouvernance mondiale en quelque sorte de la régulation, mais vous passez aussi en revue quelques-unes des grandes idées qui circulent et vous pourrez faire quelques commentaires. Le premier, la séparation des métiers et des banques.
Alors,
le
fameux, oui, je crois être une fausse piste. Bon, elle a été expérimentée aux États-Unis pendant très longtemps, pendant 50 ans, avec le fameux Glass-Steagall Act qui séparait les deux métiers après la grande crise de 1929. Elle revient un petit peu sur le tapis aujourd'hui avec les idées qui circulent consistant à dire, puisque les risques viennent principalement des marchés, je résume, je ne dis pas que je partage l'analyse. Si on sépare les deux, la banque de dépôt et la banque de marché, pour schématiser, au fond, la banque de dépôt est la seule qui nous intéresse en tant que...
Particulier.
Même que financement de l'économie réelle.
Oui, tout à fait.
Bon, et donc, il faut protéger la banque de dépôt. Donc, on va réduire les risques de la banque de dépôt. Et puis, la banque de marché, ma foi, elle prend ses risques. Si elle fait faillite, tant pis pour elle. Bon. C'est simpliste parce que pour plusieurs raisons. Les principales, c'est que d'une part, les clients, les entreprises notamment, ont besoin des deux. Et il y a des synergies considérables, réelles entre les deux. Nous, on l'a expérimenté quand on a fusionné Paribas et la BNP. Ça a eu des effets très positifs pour les clients qui ont eu un meilleur service et une meilleure offre.
Oui, bon. Qui trouvent une palette d'offres voilà. beaucoup plus
large. Une deuxième raison qui est plus simple, c'est de dire que le véritable risque, ce ne sont pas les opérations de marché, c'est les opérations spéculatives de marché pour compte propre. Et quand on regarde les choses de près et qu'on voit les problèmes qu'il y a eu depuis quelques années, par exemple les sites d'affaires Kerviel, par exemple, ou d'autres affaires, plus récemment JP Morgan, ce sont des cas dans lesquels c'est des opérations pour compte propre qui ont créé le problème. Or, ces opérations, aux États-Unis par exemple, sont maintenant en principe interdites.
Alors, par la loi Dodd-Frank.
Ce n'est pas simple d'interdire ces opérations, c'est compliqué techniquement, mais c'est réalisable. Quand on le fait, on ne perd pas les avantages qu'il y a à avoir les deux activités, si vous voulez. Dernier point qui n'est pas négligeable, c'est un domaine dans lequel la France est bonne, spécifiquement bonne, la banque universelle. Nous avons aujourd'hui des grandes banques qui sont à la fois banque de marché et banque commerciale, banque de dépôt, et qui sont des leaders et qui fonctionnent bien. Ce serait paradoxal que ce soit la France qui a précisément un atout, qui soit toute seule, quelque sorte, à prendre ces mesures. Je crois qu'il n'en est plus vraiment question, personnellement.
Je
crois
que, ça s'éloigne un peu, on verra. Mais
oui, je crois que ce qui reste, c'est l'idée qu'il faut être beaucoup plus strict sur les activités spéculatives, que c'est possible techniquement. Et que ça réglera en grande partie le problème.
Ceci me fait penser à autre chose, c'est que, en fait, on a beaucoup tapé sur les banques d'une façon générale et en y mettant les banques françaises. Or, pareil, enfin, je voudrais avoir votre avis sur ce sujet, que les banques françaises de dépôt, bien sûr, ont subi des dégâts collatéraux, mais finalement ont traversé la crise plutôt mieux que leurs consoeurs avec leur modèle de banque universelle. Alors, deuxième grief pour les banques françaises, c'est de dire oui, mais ils ne financent pas l'économie. Or, d'après ce que j'ai cru comprendre, les banques françaises ont eu une progression de leur encours de crédit à l'économie plus fort que l'évolution, que la croissance. Donc, est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que les banques françaises, donc, par leur modèle et par leur pilotage, je parle de façon générale, hein, ici ou là, il y a eu quelques dérives, ont plutôt démontré qu'elles restaient un atout stratégique pour le pays plutôt qu'un boulet que certains autres pays traînent?
Oui, c'est clair. Mais d'une part, elles sont dans l'ensemble en très bonne santé.
Oui.
S'il y a des problèmes aujourd'hui qui sont portables, insupportables, ça a été sur leur engagement sur les dettes publiques.
Oui. Alors donc là, chercher l'erreur.
C'est autre chose. Oui. Et notamment, les banques de dépôt sont par nature des banques qui investissent dans les obligations d'État.
Bon.
Deuxièmement, dans le cas du Crédit Agricole, il y a un problème spécifique avec sa filiale grecque. Banque de dépôt, entre parenthèses.
Tout à fait. Ils se sont fait piéger.
Voilà. Ce ne sont pas des personnes de marché, autrement dit, qui posent problème. Deuxièmement, elles sont globalement en très bonne santé. Deuxièmement ou troisièmement, il ne faut pas leur demander ce qu'elles ne savent pas faire ou qu'elles ne peuvent pas faire. Autrement dit, les banques sont faites pour faire du crédit ou pour aider les entreprises à aller sur les marchés. Elles ne sont pas faites pour apporter des fonds propres aux entreprises. Or, aujourd'hui, en France, notre vrai point faible, ce sont les fonds propres, notamment des PME et les entreprises moins intermédiaires. Et c'est là-dessus qu'il y a un vrai problème qui n'est pas réglable par les banques.
C'est ça, tout à fait. Par les banques classiques, on va dire. Dernier point, vous faites un commentaire aussi sur la taxe Tobin.
Bah, oui,
vous n'êtes pas un franc partisan.
C'est-à-dire que, disons, voilà, c'est un schéma séduisant, parce qu'on sait si toutes les banques du monde...
Oui, le faisaient vraiment.
Sans exception. Pour qu'il y ait une période de contournement.
Oui, c'est ça.
Ce serait une façon de taxer les clients des banques. Ne faisons aucune illusion.
Hein. Bon. Parce qu'on répercuterait.
De faire payer les clients. Bon. Et de générer des recettes sur les transactions avec l'idée que, notamment, les transactions, entre guillemets, spéculatives, seraient de ce fait freinées. Bon, je crois que le fait que ça ne soit pas applicable à l'échelle mondiale en pratique fait que c'est un peu théorique.
Tout à fait, voilà. Alors, vous terminez votre ouvrage sur une interrogation, avec un certain optimisme, mais quand même une interrogation, en disant, peut-on espérer que cette gouvernance mondiale, bien nécessaire, fonctionne effectivement en point d'interrogation? Il existe des risques. D'abord, paradoxalement, le succès des mesures de sortie de crise, car l'urgence des réformes risque d'être vite oubliée si le risque systémique s'éloigne, premier point. Et second risque, ça me paraît très important, la complexité technique des mesures à prendre, qui offre une grande marge de manœuvre aux lobbies professionnels, aussi bien globaux qu'au stade de la mise en œuvre pays par pays. Donc cette complexité, enfin le risque est au centre de la vie, mais le point sur lequel vous insistez me paraît très fort, c'est que c'est d'une complexité folle.
Et aussi sorti le fait qu'il y a concurrence internationale en matière financière. Autrement dit, la Grande-Bretagne et les États-Unis en sont de bons exemples. Dans la réglementation bancaire, ce sont finalement les États eux-mêmes qui décident, sauf pour l'Europe, où il y a maintenant une autorité
supranationale,
mais qui n'est pas vraiment une autorité qui décide, elle recommande. Enfin, bref, c'est pour simplifier, ce sont les États. Or, les États sont partagés, sont tiraillés, entre, si vous voulez, entre
deux
attitudes. L'une qui consiste à dire, il faut que mes banques soient sûres, mais deux, il faut qu'elles ne soient pas handicapées par rapport aux autres
concurrents.
Donc, il y a une dimension politique, si vous voulez, qui suppose qu'il y ait une volonté commune entre notamment États-Unis, Grande-Bretagne, zone euro et Asie pour mettre en place des règles cohérentes. Cette volonté, je crois, existe. Et je pense qu'on a fait en fait des progrès beaucoup plus importants qu'il n'y paraît. L'impression qu'il ne s'est rien passé n'est pas du tout la réalité.
Donc, c'était les convictions du président André Desvilangues. Il faut maîtriser la finance. C'est possible, c'est complexe, mais il faut absolument le faire.
Et c'est une volonté politique.
Et c'est une volonté politique majeure.
Voilà.
Merci à vous, président,
pour cet éclairage.
Et rendez-vous à votre prochaine parution. Vous avez l'impression que c'est une collection, donc ça va se multiplier.
Peut-être sur ce thème-là, en tous les cas, il y a beaucoup de domaines pour lesquels on pense que c'est utile.
Merci à vous.